Loué et remercié soit notre Dieu, aussi pour le privilège que nous avons d'être ici cet après-midi, de pouvoir être ici cet après-midi. C'est ainsi que nous voulons lui apporter l'honneur et la reconnaissance avant de le faire et l'adorer ensemble. Je voudrais lire quelques versets, des versets connus de nous tous. Dans le psaume 2, versets 11 et 12, nous voulons nous lever pour la lecture de ces Écritures. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour ta grâce et ta fidélité au Dieu. Nous te remercions pour le privilège au Dieu que tu nous as accordé. Nous pouvons regarder à toi, le Dieu, véritable Dieu, Créateur du ciel et de la terre, toi qui as tout créé, Seigneur. Tu nous as aussi créés. Ainsi, accorde ta grâce que nous, en tant que ta création, nous puissions, Seigneur, t'écouter, toi et ta parole. Accorde-nous ta grâce que nous ne puissions pas regarder à ce qui est livré à la perdition. Mais Seigneur, accorde-nous ta grâce pour rester attaché à toi et à tes commandements, à ta parole, pour que tu puisses être avec nous et que tu puisses nous bénir. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louer et remercier le Seigneur. Cet après-midi, le frère Franck va encore nous parler et ensuite il sera absent quelques semaines. Mais avant qu'il le fasse, la chorale va chanter. Venez s'il vous plaît devant. Loué et remercié soit le Seigneur. Nous souhaitons que ce serait déjà ainsi et qu'un matin glorieux, très proche, tout sera déjà de l'histoire. Toutes ces choses seront déjà dans l'histoire, de l'histoire. Cela sera arrivé. Et celui qui sera prêt, celui qui était prêt et qui sera auprès du Seigneur, il sera heureux pour toujours et pour lui tout aura servi à quelque chose. Pour les autres, il est dit alors, malheur à ceux qui sont restés sur la terre, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère. Avant, ça c'est Apocalypse 12, verset 12. Avant que nous observions la parole de Dieu, je voudrais demander au frère et soeur Gaïdech qui puisse nous chanter le cantique concernant la tempête. J'aime bien entendre ce cantique. On est au milieu de la tempête et ça n'a pas d'importance qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Quand la tempête frappe, on l'entend. Et tel que j'aime bien entendre une tempête, mais je préfère être à l'intérieur. Je me sens mieux quand je suis dans un refuge et que j'entends comme ça à l'extérieur ce qui se passe. Mais quand on est assis dans un avion, par exemple, qu'il y a une tempête, c'est pas bien. Donc, chantez-nous ce cantique, s'il vous plaît, oui. Vous connaissez ça sûrement par cœur. Nous sommes heureux de ce que nous pouvons être ici et savoir qu'il y en a un qui est là, qui peut ordonner aux tempêtes. Un est là, qui a le pouvoir sur la tempête. Et ils ont demandé, mais qui est cette personne à qui tempête et vague et vent obéissent? Nous disons, c'est le Seigneur, notre Dieu. au-dessus des vagues. Et de la terre, les yeux de Dieu regardent toute la terre. Il connaît toutes mes pensées et tout ce que il sait, tout ce que je fais. Je peux être tranquille et calme, me reposer entre ses bras. Laisse la tempête menacer et les vents souffler. Je fais que fixer mes regards vers le ciel. Oh, les étoiles se tiennent. Un jour, toute la lutte et les batailles seront terminées. Alors, je serai auprès de Jésus dans la gloire. Un jour, étant dans le monde, j'ai entendu concernant la croix de Golgotha que pour moi, pauvre pécheur, le Seigneur mourut. Quelle grâce! Ô cœur, qu'est-ce que tu peux recevoir de plus? Alors, même si les tempêtes menacent et que les vents soufflent, je regarde vers le ciel. Où les étoiles se tiennent. Un jour, tout sera terminé. Toutes les batailles et les luttes. Alors, je serai auprès de Jésus. Dans la gloire. Cette heure frappera pour petits et grands. Alors la grâce ne sera plus à trouver. Alors ceux-là chercheront la grâce, la chercheront, qui maintenant la rejette. Mais ce sera trop tard. Laisse menacer les tempêtes et souffler le vent. Je regarde vers le ciel où les étoiles se tiennent. Une fois tout sera terminé, les luttes et les batailles, alors je serai auprès de Jésus dans la gloire. Merci. Si les choses sont pour vous comme moi, nous pourrions rester assis et continuer à écouter. Déjà alors que la chorale a chanté, on pouvait fermer les yeux et ouvrir grand le cœur et les oreilles et écouter ce qui est exprimé. Et un jour, ce sera un grand troupeau qui chantera le cantique de louange à l'agneau avec ses paroles. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous pouvons appartenir à ceux en qui Dieu fait déjà de grandes choses sur terre. Comme il a été chanté dans le troisième couplet, alors celui qui maintenant rejette la grâce la cherchera. Et c'est trop tard pour toujours. Nous Savant ce qui a été dit du temps de Noé, les portes furent fermées. Et alors il a commencé à pleuvoir. Il a plu 40 jours et 40 nuits. Et nous voyons de nouveau dans les, comme je le prêche dans les réunions d'évangélisation, alors que les promesses et les prophéties s'étaient accomplies. Noé n'avait plus besoin d'appeler les gens à venir, ils sont venus d'eux-mêmes. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. Au moment où ils virent que la pluie tombait et que l'eau montait toujours plus haut, pour eux c'était clair que l'heure du jugement de Dieu a frappé, sa colère nous atteint et qu'il puisse avoir été des centaines et des milliers à entourer l'arche et à dire, Noé, ouvre-nous. Maintenant, nous croyons que c'est au nom du Seigneur que tu as parlé. Nous croyons que tu es un prophète de Dieu. Nous voyons ce que tu as annoncé à l'avance. Cela est en train de s'accomplir. Nous le ressentons déjà. Noé n'avait aucune influence sur la fermeture et l'ouverture de la porte. Il avait fait son devoir, accompli son devoir. Pendant plusieurs années, il a accompli son devoir. Et ensuite, subitement, c'était trop tard. Et notre Seigneur disait, dans Luc 17, « Tel que c'était du temps de Noé, c'est ainsi que ce sera dans les jours quand le Fils de l'homme se révélera. » Et c'est ainsi que ce sera réellement. Matthieu 25, et les portes furent fermées. Et celles qui furent prêtes entrèrent, et ensuite les portes furent fermées. Et alors les autres sont venus, et ont dit, Seigneur, ouvre-nous. Il n'y avait plus de réponse, seulement celle-là, arrière de moi. Mais bien aimé, avec la grâce que Dieu nous offre, personne ne doit jouer. Car l'heure arrive et le jour arrive dans lequel il n'y aura plus de grâce, mais le jugement. Et alors le ciel sera comme de l'airain et les jugements de Dieu vont tomber sur cette terre. Heureux les hommes qui laisse la grâce et l'Esprit de Dieu agir en eux et viennent au Seigneur tant que c'est encore le temps. Dans chaque âge, les hommes ont dû croire Dieu pour pouvoir subsister devant lui. Une foi générale en Dieu n'a sauvé personne. Mais la foi directe, personnelle, que nous devons avoir devant Dieu en raison de la parole qu'il nous a adressée dans le temps dans lequel nous vivons. Abraham croyait Dieu dans son temps et cela lui a été imputé à justice. Chacun des prophètes croyait dans son temps ce que le Seigneur lui disait, lui avait dit. C'est par cela que tous furent justifiés. Nous, dans ce temps, nous avons le devoir devant Dieu de croire seulement à ce que l'Esprit de Dieu maintenant dit à l'Église. Nous ne vivons plus dans les temps de la Réformation. Nous ne vivons plus dans les réveils qui ont suivi après la Réformation. Nous vivons dans les derniers jours. Dans les jours dans lesquels tout va vers sa fin. Dans les jours dans lesquels tout doit être ramené dans l'état primitif qui existait dans l'Église primitive. Et les deux choses existeront toujours. D'un côté, Dieu parlera par la bouche qu'il l'a déterminé à le faire, à parler, qu'il a mandaté. Et d'un autre côté, il y aura aussi, pendant ce temps, d'autres qui vont apparaître et qui vont parler contre l'homme de Dieu et contre ce qu'il enseigne. Et le peuple de Dieu doit prendre sa décision. Dieu permet ces choses pour nous examiner. À qui est-ce que nous allons prêter l'oreille? Et là, nous devons nous mettre du côté de Dieu. Jamais ça a été pour les croyants dans les âges sans épreuve, sans examen. Dans le temps de Moïse, il n'y a eu jamais Jézabel. Ce n'était pas pour rien. Et ça ne suffisait pas encore. Il y a eu plus tard encore un Balaam qui, n'est-ce pas, se pensait être quelque chose pour faire chuter le peuple de Dieu, Moïse, et égarer le peuple de Dieu. Moïse, lui, il avait la parole de l'heure. Pour cette époque, Moïse a apparu mandaté, envoyé par Dieu pour apporter la délivrance, l'exode, l'agneau a été immolé sous l'ordre divin et ils ont exécuté l'ordre. Moïse avait un ordre de Dieu, un mandat de Dieu. Alors nous nous posons la question, qui était Balaam? Qui l'a mandaté? Qui l'a appelé? Qui lui a dit de faire ce qu'il faisait? Qui l'a envoyé? Qui voulait le récompenser? Qui lui a demandé de faire cela? Mais par cela, le peuple a toujours été placé en examen, déchiré à droite et à gauche. Nous devons comprendre une fois pour toutes avec un regard clair. Nous devons savoir où est-ce que Dieu parle, d'où est-ce que la parole de Dieu, et qu'est-ce qui est lié à la parole de Dieu que Dieu nous adresse maintenant. Et nous devons savoir à qui est-ce que nous avons apprêté l'oreille. Il y a beaucoup de voix, il y a beaucoup qui prêchent, il y a beaucoup qui parlent. Mais pour nous, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a qu'une seule voix qui est valable. Et c'est ainsi que c'était dans les temps des prophètes, que ce soit dans les jours de Jérémie ou bien d'Élie, quoi que ce soit dans tous les âges. Et mes yeux sont tombés ici, dans ce verset ici, dans le prophète Jérémie, au chapitre 18, à partir du verset 18. Il dit ici, voilà, ce sont ceux-là qui ont apparu et qui ont dit, ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Contre Jérémie. Car la loi ne périt pas faute de sacrificateur. Car encore, les sacrificateurs ne manquent pas d'enseignement en allemand, ni le conseil faute de sagesse. Et les sages ne manquent pas de conseil, ni les prophètes de parole. Venez, tuons-le avec la langue, ne prenons pas garde à tous ces discours. On n'a pas besoin de faire plus. On n'a pas besoin de faire plus. On a seulement besoin d'appartenir à ces gens-là qui disent, ah, nous aussi nous sommes là, en tant que sacrificateurs, sages ou même prophètes. On n'a pas besoin de prendre garde à ce que cet homme envoyé de Dieu a à nous dire. Et comme c'était autrefois, ce sera souvent et ce sera encore maintenant comme ça, que les sacrificateurs ont de l'enseignement. Mais quel enseignement? Ils ont la loi, mais quelle interprétation? Mais celui qui n'a pas encore été enseigné lui-même par Dieu, il n'a même pas le droit de parler et d'enseigner les autres au nom du Seigneur. Seulement d'abord nous-mêmes, nous devons avoir été enseignés par Dieu pour pouvoir ensuite pouvoir transmettre l'enseignement que nous avons reçu de Dieu. Sinon, nous éloignons les hommes loin de Dieu. Nous égarons loin de Dieu. Du temps alors que le Seigneur Jésus était sur terre. Tous les sacrificateurs, n'est-ce pas, ont eu plein d'enseignements dans leur bouche. Ils pouvaient même savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et ils ont éloigné le peuple de Dieu avec leurs enseignements. Ils ont égaré le peuple de Dieu. Ils ont égaré loin de Dieu le peuple de Dieu. Et qu'est-ce que c'était? Que le Seigneur a dû leur dire, mes brebis, entendent ma voix. Ma voix. Les gens devaient toujours, ou alors, prendre leurs décisions. Et particulièrement dans ces derniers jours. Si proches. Tel que maintenant, le vrai et le faux sont ensemble, ça n'a jamais été auparavant. Si proche, le vrai est du faux et le faux est du vrai. Dans tous les autres siècles, on savait ce qui est noir, ce qui est blanc, on savait où les gens ont leur place. C'était dévoilé, c'était révélé. Il y avait pas, c'était pas facile difficile à comprendre, à le constater. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, les pentecôtistes peuvent avoir une réunion à Strasbourg, parce que tout est sous un même parapluie, tous chantent ensemble les cantiques précieux pentecôtistes, et à la fin, c'est par le prêtre catholique que la messe est tenue et l'eucharistie distribuée, avec les pentecôtistes. Aujourd'hui, tout est sous un même toit, proche l'un de l'autre, de manière que c'est seulement les élus seuls qui seront ceux qui auront le discernement parce que ils placent la parole de Dieu et ce que Dieu a dit dans cet âge au-dessus de tout et Ils ont tout examiné à travers des Écritures. On ne peut pas examiner les choses parce que quelqu'un nous sourit ou bien fait un bon visage. Pieux. Non. L'examen, c'est par les Écritures. Et je dois, ici, n'est-ce pas, penser aujourd'hui à cette expression Babel, Babylone. Comment est-ce que même des mots peuvent être semblables, proches. Même des mots peuvent être proches l'un de l'autre. Babel veut dire porte de Dieu. Babel, dans notre langue, ça veut dire Babel, porte de Dieu. Mais Babylone veut dire confusion. Ça peut être si proche l'un de l'autre que ce que les hommes, n'est-ce pas, désignent comme porte à Dieu. Et là, ils pensent qu'ils sont ceux-là qui sont les médiateurs de Dieu, qui conduisent le peuple de Dieu à Dieu. Non, ils ne sont pas une porte de Dieu. Ils sont, n'est-ce pas, l'apostasie de la confusion. Mais les gens ne le remarquent pas. Et ils passent sans le remarquer. C'était Daniel qui avait dit que ceux qui ont de la compréhension, les intelligents le remarqueront et beaucoup vont être apportés à comprendre dans les derniers jours. Et par la grâce de Dieu, nous sommes arrivés dans cette fin des temps. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Daniel 12, verset 10. Ici, ils ont dit, nous voulons faire un complot contre Jérémie. Et c'est facile pour eux, n'est-ce pas, de le faire. Tous ceux qui ne sont pas de Dieu, ils sont en train de penser à faire des complots, à comploter contre les autres. Ils ne savent pas, ils ne savent rien faire d'autre que de nuire et de tuer avec leur langue. Et ensuite, ils disent, car le sacrificateur ne manque pas d'enseignement en allemand. Mais qui leur a demandé même d'enseigner? Qui les a envoyés? À quoi est-ce que sert un enseignement s'il éloigne de Dieu? Et les sages ne manquent pas de conseils en allemand. Là, on pourrait encore dire beaucoup de choses ici. Les Saintes Écritures disent dans Amos 5, verset 13, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, le sage se tait. C'est ainsi que c'est écrit. Le sage se tait. Celui qui veut encore utiliser sa bouche, veut encore prêcher, il n'a pas compris que la parole de Dieu nous a été adressée d'abord pour nous fermer la bouche. Mais ça continue encore ici. Il y a trois choses, il y a trois personnes qui apparaissent. Les sacrificateurs, les sages et aussi les prophètes. Ni la parole faute de prophètes. Et les prophètes ne manquent pas de parole. Oui, ils peuvent vraiment avoir la parole. Ils peuvent prêcher parole, mais seulement de leur propre manière. Et cela ne sert aussi à personne. Il faut que ce soit la manière divine qui est liée avec la parole divine parmi le peuple de Dieu. Et c'est comme ça que ça va être manifesté. Et comme dans les jours de Jean, beaucoup parlaient. Il y avait beaucoup de voix qui prêchaient. Mais ils ont tous égaré, loin de Dieu, le peuple de Dieu. Il était celui qui criait dans le désert, préparé au chemin, au Seigneur. Un chemin. Avec la prédication de la parole prophétique, il faut que soit lié à cette prédication le chemin du Seigneur qui est préparé. Il faut que par cela un chemin soit préparé et le peuple de Dieu soit bien disposé, comme il est écrit, pour que le peuple de Dieu puisse servir son Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, il faut qu'un chemin soit préparé. Il faut que le Seigneur ainsi puisse se révéler à son peuple. Comme il est écrit dans Ésaïe 40, « Conseillez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. » Et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tout ce qui s'est passé. Le temps arrive, le temps est venu où Dieu a commencé à faire l'histoire du salut. Quand il avait commencé à faire l'histoire du salut, il a frayé un chemin. Il a rassemblé les gens autour de lui et il leur a parlé. Et tous ceux qui étaient de Dieu sont allés pour écouter ce qui leur est dit. Ils ne se sont pas arrêtés aux prophètes, aux sacrificateurs ou bien aux sages. Ils se sont sentis poussés à aller dans le désert, écouter ce que cet homme disait de la part de Dieu avec habillé en peau de chameau. Extérieurement, les gens, n'est-ce pas, ont pu se moquer de lui. Combien ont pu dire, il ressemble à l'animal dont il porte la peau, n'est-ce pas? Combien ont pu se moquer de Jean-Baptiste? Il était un homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, adressé au peuple de Dieu de l'époque, à l'époque. Et le Seigneur a envoyé tous ceux qui devaient l'écouter. Ils sont allés tous là-bas, dans les déserts, et dans les plus grandes circonstances. C'est ainsi que c'était aussi dans ce temps. Les gens viendront de loin et de près pour écouter la parole du Seigneur, même si ça doit être dans le désert, dans un endroit difficile. Car Dieu envoie une faim, pas d'après le pain ou bien l'eau, mais une faim, un désir, une soif d'écouter la parole de Dieu et de l'expérimenter. Et les gens viendront pour expérimenter la parole du Seigneur. Malheur à nous, si nous prêchons autre chose que la parole originale de Dieu, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Car le peuple de Dieu a le droit à cela, le plein droit d'écouter la parole du Seigneur. Revenons au psaume 2, qui est d'une très grande signification dans l'histoire du salut, qui déjà prédit que Dieu va sauver les nations et tout ce qui appartient à cela. Et même dans Actes des Apôtres 4, l'Église primitive, justement, c'est ce psaume-là qu'ils ont cité dans leur prière, alors que l'endroit s'était ébranlé là où se trouvait. Vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres chapitre 4. Le psaume 2 est cité dans leur prière. Ici, il est dit, psaume 2, verset 1, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui a oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, l'Éternel, tu es mon fils. L'Éternel, je publierai le désert, le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras. Et cela va même jusqu'au-delà, jusqu'à la terre, jusqu'aux nations. Et le Seigneur a prédit cela à l'avance. Et cela s'accomplit aussi dans Apocalypse 12, verset 5. Vous pouvez lire aussi. On peut retrouver cela dans Apocalypse 12, verset 5. Tout cela, ce sont des choses qui ont été exprimées à l'avance. Et ensuite, nous venons à ce qui a été lu. Servez l'Éternel avec crainte, verset 11. Et réjouissez-vous avec tremblement. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la crainte et le tremblement devant l'Éternel est demandé. Servez l'Éternel avec crainte, pas dans la peur d'être condamné, mais dans la crainte, la sainte crainte devant Dieu. Et réjouissez-vous avec tremblement. Et louez-le avec réjouissance, avec tremblement. Pas comme ça à la légère, mais en étant conscient qu'il est Dieu et que nous sommes des hommes. Et que nous sommes dépendants de sa grâce. Ici, du Fils, il est dit, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voix.
Oui,
bénisse heureux celui qui peut embrasser le Fils, qui peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, notre Seigneur et Rédempteur, est devenu notre Seigneur et Rédempteur et notre Sauveur. Et ça aussi, c'est un point. Lui, le Seigneur, est devenu notre Sauveur. Et ça, c'est aussi un point aussi dans les autres peuples, les nations, que nous devons mettre sur le chandelier. Dieu est devenu homme. En tant que Fils de Dieu, il a été manifesté pour que les hommes deviennent des fils et des filles de Dieu, pour pouvoir faire devenir les hommes des fils et des filles de Dieu. Nous ne croyons pas comme ça en Dieu en général, mais nous croyons en lui par Jésus-Christ. Notre foi est en Dieu par Jésus-Christ. Nous ne pouvons que rencontrer Dieu, comme souvent nous avons eu à le dire, là où il s'est révélé à nous. Il peut être trouvé que là où il est vraiment. Et là, on peut avec une grande certitude dire qu'il n'y a qu'un seul qui marchait sur cette terre qui pouvait dire « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Il n'y en avait qu'un seul qui pouvait dire « Le troisième jour, je ressusciterai ». Ce sont des comparaisons merveilleuses que on peut tirer parmi ces milliers de peuples, parmi les nations, et on est soi-même heureux de ce que on ne croit pas quelque chose de quelconque, mais que vraiment nous croyons Dieu, et que nous croyons sa parole, et que nous avons de l'assurance sur ce que nous croyons, et sur le chemin que nous suivons, sur lequel nous marchons. Nous voulons encore lire une parole dans 2 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, ici il est écrit à partir du verset 14. Car l'amour de Christ nous pousse à comprendre que, parce que nous estimons, l'amour de Christ nous pousse à estimer que si un seul est mort, voilà en allemand, pour tous, tous donc sont morts. L'amour de Dieu nous pousse à estimer. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela est l'œuvre de Dieu. L'ouvrage de Dieu vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette prédication de frère Branham dans vos cœurs ou bien dans vos mémoires, mais dans ce contexte de la parole, que Dieu est riche en miséricorde, dans ce contexte-là, il dit, c'est dans ce contexte qu'il parle de ça. pas seulement que nous participons à la justice de Dieu, mais que la justice de Dieu elle-même s'exprime par nous, que nous devenions la justice de Dieu, que nous soyons une partie de cette justice de Dieu-là, que nous la soyons devenus. Parce que Jésus-Christ a porté nos péchés et pour nous, il a été fait péché. C'est ainsi que nous sommes pleinement justifiés et nous sommes devenus la justice de Dieu. C'est-à-dire comme si nous avions jamais péché, parce qu'il ne peut plus imputer la justice. Il ne peut plus nous imputer nos péchés, pardon. Est-ce que chacun peut comprendre ça? Quel message voulons-nous encore écouter avant de comprendre comme Dieu est bon envers nous? Plus que bon, on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Ici, il est dit mot à mot, et je vous demande vraiment de manquer de l'écouter, car Dieu était en Christ et a réconcilié pas, et Dieu était en Christ et car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. C'est vrai que Dieu a pardonné, c'est vrai, mais Dieu n'impute plus. Et peut-être que je vais le dire ici, aujourd'hui, il y a un troupeau à qui Dieu n'a plus pu imputer quelque chose. Ça, c'est la troupe des prémices. Et quand Paul l'exprime, il l'exprime avec toute puissance, mais très bref, dans Romains 4, au verset 7 et 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme, en allemand béni, l'homme à qui le Seigneur n'impute plus son péché. Donc, comme nous le savons, lors de la deuxième résurrection, beaucoup, n'est-ce pas, vont entrer dans la vie éternelle. Tous ceux qui, dans la deuxième résurrection, seront acceptés et qui ont cru à Christ et dont leurs noms seront dans les livres de la vie, ils ont expérimenté le pardon de leurs péchés et ils ont reçu la vie éternelle. Mais la troupe des prémices, la troupe des enlevés, ceux qui seront enlevés, ceux qui prendront part à la première résurrection, cette troupe est justifiée, elle est sanctifiée, elle est achevée, elle est perfectionnée à l'image de Jésus-Christ, lui-même transformé à son image, qu'il n'y a même plus de jugement possible à leur égard. Le jugement, il y en a un qui l'a pris pour eux une fois pour toutes, c'est-à-dire il a porté le juste jugement qui serait tombé sur nous tous. Le juste jugement qui serait tombé sur nous tous. Je souhaiterais que dans mon cœur et dans ton cœur, une fois pour toutes, cela soit placé réellement, révélé, que une réconciliation avec Dieu a eu lieu. Vous savez comme parfois nous considérons ce que Dieu a fait. Nous considérons cela de manière humaine. Et c'est ainsi que tel que nous en tant qu'hommes, parfois nous pardonnons, parfois nous ne pardonnons pas, parfois nous parlons, parfois nous ne parlons pas, parfois nous oublions, parfois nous trois fois nous oublions pas. Et c'est ainsi que nous considérons ce que Dieu aussi a fait pour nous, parfois. Et ça, c'est faux. Nous devons, avec ce que Dieu a fait, nous devons considérer cela de manière divine. Nous ne pouvons pas, avec des choses divines, les considérer et les utiliser comme ça de manière charnelle. Ça, ce n'est pas digne de Dieu. Nous devons, avec les choses divines, les considérer de manière divine. Et cela veut dire que désormais, nous devons parler le langage de Dieu. Dieu a accordé la réconciliation. Il a expié nos fautes. Il n'impute plus nos transgressions. Le plein pardon, le salut éternel en Christ Jésus est accordé à chacun de nous. Devant Dieu, nous n'allons jamais entendre de sa part un reproche. Il n'est pas soumis aux variations. Il n'a jamais une mauvaise humeur parce qu'il n'a pas bien dormi. Il ne dort pas. Celui qui garde Israël ne dort pas, ne sommeille pas. Nous sommes parfois soumis à des variations. Et quand nous n'avons pas bien dormi, alors parfois, cela peut être remarqué par notre entourage. Hein? On ne peut même pas cacher cela quand on a une mauvaise humeur. Nous devons comprendre une fois pour toutes que ce que Dieu a fait et que ce que cela signifie, une réconciliation. Il n'a pas expié nos offenses. Il les a pardonnées. Il les a expiées pour toujours. Il les a. Et nous sommes déjà amenés à la perfection. Hébreux 10, versets 12 et 14. Et si dans la foi nous comprenons cela, croyons cela pour nous et pour les autres, c'est à ce moment-là que nous pouvons aussi comprendre ce verset de 2 Corinthiens 5, qui est aussi important ici. Ainsi, dès maintenant, quand nous ne connaissons personne selon la chair, nous sommes maintenant dans l'Esprit de Dieu. Et nous laissons les choses charnelles, terrestres, dans le domaine terrestre, et les choses divines dans le domaine divin. Et la plus spirituelle, et la plupart d'eux sont plus. La plupart des croyants sont plus pieux que Paul. Plus pieux que Paul. Et je vais vous lire, pour que vous pourriez savoir comment est-ce que Paul était pieux. Et ensuite, vous pourrez le regarder, vous puissiez le regarder. Alors, vous pourrez regarder Paul aussi comme avec mépris, au lieu de regarder tous les autres avec mépris. Faites aussi cela avec Paul alors. Regardez avec quelle véracité cet homme de Dieu a été pénétré. C'était pas quelqu'un qui était éloigné de la réalité. Il savait de quoi il parlait. Romains 7, verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Quel prédicateur allait aujourd'hui avouer cela? Ils sont tous élevés et pleins d'hypocrisie. Et ça sort par leur cravate. Celui qui regarde bien derrière, devant il n'y a rien à voir. Devant il y a le masque. Mais par derrière, c'est là qu'on voit un peu. Celui qui regarde bien de derrière, il voit comment est-ce que l'orgueil sort du col. Et l'orgueil est tellement visible aujourd'hui, c'est incroyable. Paul était véritable. On peut enlever ses lunettes, ôter son chapeau, on peut faire tout pour qu'il pourrait être ressenti par quelqu'un au moment de voir une telle véracité. C'était seulement des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui pouvaient avoir une telle véracité. Tous les autres planent sur les nuages et se sont trompés eux-mêmes et se trompent les autres. Et c'est ainsi que cela ne réussira à personne. Nous pourrons aller de l'avant et réussir si nous comprenons que nous attendons encore la transformation de notre corps. Il y a quelqu'un qui m'avait appelé il n'y a pas longtemps et qui disait, frère Franck, je reçois une visite d'un frère qui est déjà mort. Et je savais pas exactement ce que cela veut dire, ce que cela devrait signifier. Je pouvais déjà calculer ce que cela voudrait dire. Mais parfois, je laisse aussi les autres calculer parce que je ne suis pas capable de le faire. Mais si je vous dis ce que les gens veulent dire par mourir, après ça, c'est une douleur. Ce sont de pauvres personnes qui eux-mêmes ne peuvent plus eux-mêmes céder. Un Paul, il était mort avec Christ à 100%. Mais il était dans les choses terrestres. Il a ordonné les choses de manière terrestre comme elles sont à ordonner dans les choses terrestres. Il n'était pas quelqu'un qui avait mis un masque de saint et qui avait visité la vieille tante et qui lui a dit, n'est-ce pas, je peux me priver de tout, je suis déjà mort, etc. Non, un tel homme, il ne sait même pas de quoi il parle. Il ne connaît pas l'ordre divin. Il est un tordu, un homme tordu, rien d'autre. Et fait que tromper les autres. Le domaine terrestre est un domaine terrestre, tout à fait normal, comme il est. Et le domaine spirituel est un domaine spirituel divin, tout à fait normal comme il est. Et celui qui mélange les deux domaines, lui-même sera mélangé, confus. Ne m'en voulez pas. Le temps est là. Le Seigneur ne parle plus en parabole avec nous. Il parle clairement et ouvertement, comme il a fait autrement, autrefois. Et celui qui s'attend encore à ce qu'on parle en parabole, il n'a pas encore compris que le temps est passé pour cela. Le Seigneur maintenant nous parle clairement. Il appelle les saints à se rassembler. Et il a dit à la foule, est-ce que j'ai parlé en parabole? J'ai parlé pour qu'ils ne puissent pas, c'est vrai, voir et entendre et comprendre. Mais avec vous, mes disciples, je vous parlais de face à face. C'est à vous qu'il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. On a seulement encore besoin de lire ces choses. Et ensuite, cet homme ici, à vous est écrit au verset 22. Non, je veux déjà lire le verset 20. Je veux pas lire le verset 21. Sinon, vous allez tomber de la foi. Mais cela ne doit pas être. On doit de nous plutôt être pénétré de la véracité de Dieu. Nous allons quand même lire le verset 21. J'ai entendu un amen, ça suffit. Les autres pourront encore le faire. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Ouais. Ça, c'est déjà une chose. J'espère pas que vous soyez faibles dans la foi en avoir lu cela. Est-ce que cela ne vous console pas? Mettez votre main sur votre cœur. Si ces hommes de Dieu n'avaient pas parlé de cette manière si véridique, on aurait pu tous douter et repartir à la maison et dire, mon Dieu, nous abandonnons plutôt. Je veux dire, mais que nous voulions peut-être abandonner. Personne n'a besoin d'abandonner. Personne n'a besoin de démissionner. Personne n'a besoin de se retirer. Tous, nous, ensemble, nous mettons notre confiance dans le Dieu vivant. Et attendons, après que notre âme fût changée, transformée, renouvelée, nous attendons le changement de notre corps. Et nous n'attendons pas en vain, loué et exalté soit le nom du Seigneur. La transformation de notre corps arrive. Et celui qui déjà maintenant fait comme si il est déjà transformé dans son corps, il a encore besoin d'être transformé dans sa tête et aussi d'être transformé dans son âme. Il a peut-être même besoin de deux transformations avant que la troisième arrive. C'est comme ça avec beaucoup. Mais Paul ici ne reste pas arrêté à cela. Il continue et il dit au verset 25. Grâce soit rendue à Dieu. C'est accompli par Jésus-Christ notre Seigneur en allemand. C'est accompli. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et cela ne devrait pas, n'est-ce pas, écrit dans la Bible parce que ce n'est pas assez pieux pour les pieux. Ça ne devrait même pas être écrit, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi l'effacer si vous voulez, le gommer. À votre place, je ne le ferai pas. Je remercierai plutôt Dieu. Et je dirai au Seigneur, c'est accompli de ce que tu nous as délivré et de ce que tu as envoyé des prophètes, tu as envoyé des apôtres, de ce que tu avais des hommes qui étaient pénétrés de véracité, de sincérité, d'honnêteté, qui ont prêché correctement ta parole de Dieu, qui n'ont pas regardé les autres avec mépris, mais qui étaient dans les mêmes faiblesses et qui ont apporté la parole pour aider les autres. Et je vais vous dire, partout où nous lisons, nous recevons de l'aide par Dieu. Dans cette parole que nous lisions tout à l'heure, Paul a dit à nous, la parole de la réconciliation a été donnée. Nous voulons par cela, avec l'aide de Dieu, laisser Dieu nous donner un message merveilleux. Et d'exécuter notre ministère de manière digne de Dieu pour que la réconciliation et la rédemption soient apportées au peuple de Dieu par la prédication du message du salut. Pas ta lutte, pas ton combat, C'est lui-même qui doit le produire, l'accomplir pour toi. Et il a déjà accompli, alors que notre Seigneur, sur la croix de Golgotha, a dit, c'est accompli. Ça a été accompli. Nous avons été délivrés. Toi et moi, nous étions à ce moment-là sauvés, rachetés. Nos offenses ont été expiées. Et il ne peut plus les imputer. Et plus rien ne peut nous être imputé. Notre transgression a été pardonnée. Notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix. La lettre qui nous condamnait a été effacée. L'acte qui nous condamnait. Comprenons ça une fois pour toutes pendant ce week-end. Que la rédemption est un don gratuit de Dieu. Une œuvre de grâce du Dieu Tout-Puissant lui-même qui nous a été accordée. Nous ne pouvons pas nous la procurer et nous ne sommes pas prêts non plus à l'abandonner. Au contraire, à la perdre, nous sommes reconnaissants au contraire et nous acceptons tel que cela nous a été accordé. Et nous demandons au Seigneur de faire de nous des hommes qui marchent dans les voies, dans ses voies, qui demeurent dans le cadre de sa parole, qui marchent et se conduisent dans le cadre de sa parole pour pouvoir atteindre le but. Je ne crois pas que Dieu voulait ici produire un manque de laisse ou bien nous laisser comme ça libre, faire ce qu'on veut. Non, Dieu nous tend une main pour nous aider, pour que personne ne se décourage et que personne ne reste derrière la grâce de Dieu, mais que tous dans la foi soient fortifiés, viennent au Seigneur et savent qu'il est notre sauveur et que par sa grâce, il a tout accompli pour nous. C'est ce qui est écrit ici dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore comprendre cela. Et ça aussi, frère Branham l'a dit clairement. Il disait ici, vu terrestrement, il disait, nous étions déjà dans nos aïeux, dans nos ancêtres. C'était déjà la disposition. C'était déjà n'est-ce pas, à la suite du sexe et tout ça. C'est comme ça que c'est aussi spirituel, le mens. Nous étions en Dieu. Et quand Dieu est descendu et qu'il a pris une forme humaine, qu'il est devenu chair, c'est ainsi que sur la croix à Golgotha, il est mort dans ce corps de chair. Et le sang s'est répandu pour nous racheter, nous qui sommes dans ce corps de chair, mais qui portons dans notre âme la semence divine, pour nous racheter, nous. Nous appartenons pas dans ce corps. Ce n'est pas notre place dans ce corps. Ce corps est pour nous un corps étranger, quelque chose d'étranger, que nous portons comme ça, de manière passagère. Mais il doit devenir ce qui est. Ce qui est poussière doit revenir, soit devenir poussière. Ce qui est cendre va devenir cendre. Mais ce qui est divin va aller d'où c'est parti, d'où c'est venu. Pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que nous devons comprendre une fois pour toutes. Ce que Dieu a fait en nous repartira d'où c'est venu. Quand nous allons déposer cette tente, nous avons un bâtiment, un corps, une maison qui est préparée pour nous. Ce qui est charnel deviendra poussière. Et ce qui est spirituel repartira là d'où c'est venu. Et nous serons transformés dans un corps spirituel. Et frère Branham l'a déjà dit dans cette prédication, Melchisedec, que en fait, Dieu avait voulu que tout reste dans le domaine spirituel, dans le corps spirituel. Et ensuite, n'est-ce pas, il a créé l'homme, il a formé l'homme de matériaux de la terre. Mais ce n'est pas notre place dans ce corps de chair. Nous allons de nouveau être sortis de ce corps. Nous sommes déjà rachetés. Et par espérance, sauvés par espérance. Et quand le temps sera arrivé, alors nous allons déposer cette tente et nous repartirons là dans le corps que Dieu a préparé déjà pour nous. Pourquoi est-ce que nous soupirons dans ce corps? Pourquoi est-ce que nous ne sentons pas bien dans ce corps, comme Paul le dit dans 2 Corinthiens 5? Pourquoi nous soupirons? C'est un état tout à fait normal. Et Paul dit ici dans Romains 8 que toute la création soupire. Et nous aussi nous soupirons, tous. Nous qui avons même l'esprit comme en tant que prémisse, nous soupirons et attendons qu'en tant que fils et filles de Dieu, nous soyons manifesté. Romains 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, la rédemption de notre corps. Est-ce que ça peut être exprimé plus clair que ça? Pourquoi est-ce que nous soupirons? Est-ce que nous soupirons sur notre âme? Nous soupirons sur notre esprit? Sur Dieu, bien sûr, la parole de Dieu? Non. Non. Le problème que nous avons, c'est cette tente dans laquelle nous sommes. La chose divine n'a pas sa place dans ce corps de chair. La chose divine a sa place dans un corps divin. Et c'est ainsi que nous soupirons après ce corps. Nous attendons, bien sûr, que nous savons. Ce corps terrestre est déterminé à ce qu'il aille là d'où il est venu. Et la chose divine est déterminée à aller aussi là d'où elle est venue. Et nous étions en Dieu. Et nous allons être amenés à Dieu. Et frère Branham le dit, par exemple, nous allons repartir dans ce corps spirituel. Et frère Branham disait, il y a eu un temps où votre père ne vous connaissait pas. Ensuite, vous n'étiez pas encore là. Mais ensuite, l'union a eu lieu et ensuite, vous avez apparu. Laissez-moi aussi aujourd'hui dire cela. Et cela seulement de manière spirituelle. Sans l'union avec Dieu, il n'y aura pas d'enfants qui naîtront spirituellement. Il faut que cela arrive. Que Dieu et l'Église soient unis et que la semence divine incorruptible de la parole de Dieu soit implantée, ensemencée dans l'Église pour que la semence produise dans son espèce et qu'il y ait des fils et filles de Dieu qui soient manifestés. Ce n'est pas possible autrement. Sans la semence divine, ce n'est pas possible. Et tout cela est dans cette prédication que vous pouvez lire. Et parfois, il faut aussi s'arrêter à une phrase et un peu faire une pause et méditer et peut-être dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux ici me dire? Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour sa parole qu'il a donnée et qui nous a donné ce privilège en tant que son troupeau racheté par le sang, en tant que des hommes qu'il, ou bien avec lesquels il a fait une alliance. Par ce saint sacrifice sur la croix à Golgotha, Dieu a revendiqué notre âme. Il nous a rachetés. Il nous a appelés de notre nom. Nous lui appartenons. Et personne peut nous ravir de sa main. Il peut essayer, mais ça, nous le disons exactement comme je ne sais pas exactement où est-ce que le frère Branham l'avait dit, alors qu'il y a un frère qui lui disait, je n'ai pas de force, je ne peux plus tenir la main du Seigneur. Et frère Branham lui a dit, ouais, tu n'as pas besoin non plus de le faire. C'est le Seigneur qui tient ta main. Et c'est ainsi que c'est. Comme parfois la force veut nous quitter, nous pensons que, oh, maintenant nous ne pouvons plus. Mais c'est bien. Si nous ne pouvons plus, alors lui, il a ta main entre ses mains. C'est lui qui te tient. Si toi, tu devrais le tenir, oh, combien de fois ta main allait glisser? Je veux dire, dans le bon sens, parce que la force te manquerait. Non. Et notre Seigneur nous tient avec sa main percée sur la croix à Golgotha. Ses mains et ses pieds ont été percés. Et le prophète l'a exprimé. Et il disait là-bas, dans la paume, sur la paume de ma main, je t'ai gravé, je t'ai gravé sur la paume de ma main, sur la croix, dans le creux de ma main. Et cela a eu lieu à Golgotha, parce que c'est là que ses mains ont été clouées sur la croix, sur le bois. Mais croyez-moi, ce n'est pas les clous qui l'ont retenu sur la croix, mais c'est l'amour de Dieu qui l'a retenu sur la croix pour toi et pour moi. Oh, si nous pouvions estimer ce que cela signifie, que il nous a tant aimés et qu'il nous a arraché de ce monde et nous a déterminé à être des fils et des filles de Dieu. Et alors nous pourrons nous réjouir et être reconnaissants. Que Dieu puisse utiliser ce week-end pour que personne reparte encore étant conscient de ses péchés, comme c'était dans l'Ancien Testament, mais que tous puissent mettre de l'ordre avec Dieu et parler avec lui et lui dire, Seigneur, tu nous as parlé et nous avons écouté ta parole et nous la croyons. Nous croyons que nous repartons sans faute et que tu nous as déclaré libres, rachetés, sauvés. Nous sommes sans péché. Tu nous as sauvés, tu nous as sanctifiés, tu nous as purifiés. Et que aujourd'hui, en cet endroit où sa parole s'est adressée à nous, si nous pouvions ici parler avec lui avant de quitter cet endroit et que nous ne sortions pas avec une lutte encore dans notre cœur et nous ne savons plus encore où est-ce que nous en sommes, mais que en regardant au Seigneur, nous puissions parler et lui dire, Seigneur, nous t'avons compris. Tu as parlé avec nous. Nous le croyons. Nous devons nous accorder avec le Seigneur et dire, tu as fait une alliance avec nous. Et tu as versé ton sang saint. Tout ce que tu as dit est vrai. Nous le croyons. Et vous verrez que c'est seulement comme ça que nous pourrons être heureux et nous réjouir dans notre Dieu. Je ne sais pas si le frère Rousse a encore une parole, mais sinon nous pourrions prier, mais j'ai fini avec ma part. Je voudrais seulement me remettre à vos prières et je vais, Dieu voulant, revenir au début de mars. Pensez à moi dans ce voyage de manière particulière. J'avais jamais été dans à Hong Kong, j'ai déjà été, mais dans tous les autres quatre pays, jamais. C'est la première fois que je vais là-bas. Nous voulons demander au Seigneur qu'il puisse accorder sa grâce pour le voyage. Je voudrais être comme le serviteur d'Abraham autrefois, comme Eliezer, et chercher l'épouse. Et là où l'épouse est, je veux qu'elle soit abreuvée, nourrie, bénie. Et quand le dernier sera appelé à sortir et sera entré, alors le Seigneur reviendra pour prendre les siens auprès de lui. Loué et exalté soit le nom du Seigneur. Amen. Loué et remercié soit notre Dieu pour ces paroles précieuses que nous avons eu la grâce d'entendre pendant ce week-end, que nous avons reçu. Je ne sais pas, mais Dieu a puissamment parlé avec nous par sa sainte et précieuse parole. Et si Dieu nous a parlé, qu'est-ce que nous avons alors à faire, mes bien-aimés? Alors nous pouvons seulement qu'avec le psalmiste qui dit ici dans le psaume 95, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qu'il a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Oui. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui savoir. N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et je leur dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Ainsi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Mes bien, frères et sœurs, cette parole merveilleuse, nous voulons la recevoir dans notre cœur. Et nous voulons écouter ce que Dieu nous a parlé, nous a dit. Et ne pas rejeter cela et dire, oh, ils ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Non, cela ne nous est jamais arrivé dans nos pensées. De dire ce qu'on veut. Mais notre absolu, c'est de dire ce que Dieu veut dire. Et ce que Dieu, par sa parole, a à nous dire. Tout le reste, nous savons, c'est du vent vide. Sans effet, il ne pourra pas subsister. Mais la parole du Seigneur est véritable. Et elle s'accomplira aussi dans nos jours. Et je crois que aussi dans nos jours, il y a encore des hommes qui sont là, qui croiront sa parole et qui atteindront ce qu'il a promis dans sa parole aussi pour nos jours. Nous sommes si heureux et reconnaissants. Venez, nous voulons nous prosterner et nous humilier, fléchir les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Oui, c'est ce que ce psalmiste le dit autrefois à son entourage. Mais aujourd'hui, nous voulons nous le dire à nous, au nom du Seigneur, que nous devons venir devant lui, nous prosterner, nous humilier, nous fléchir nos genoux et lui dire merci de ce qu'il nous a parlé puissamment, d'une manière si merveilleuse. Je ne sais pas comment les choses sont pour vous, mais toutes ces paroles de hier soir et jusque cet après-midi étaient des paroles de notre Dieu et des paroles d'exhortation, de correction et d'avertissement. Et nous en avons besoin. Moi, j'ai besoin et nous tous, nous en avons besoin. Je suis tellement reconnaissant pour chaque parole que nous avons eu la grâce d'écouter pendant ce week-end. Et nous sommes reconnaissants de ce que vous êtes tous venus. Et que Dieu puisse vous bénir. C'est ma prière. Je voudrais vous demander que ces paroles-là, vous puissiez les repasser dans vos cœurs et dans vos pensées encore une fois. Et les conserver dans vos cœurs, tout ce qui a été dit. Et croyez, alors nous atteindrons ces choses et Dieu nous apportera là où il veut nous avoir. Loué soit le nom du Seigneur. Nous donnons à notre frère, remettons à notre frère des salutations en Corée et partout où il ira. Nous voulons nous remettre nos salutations à nos frères et nos sœurs que nous ne connaissons pas encore, ou bien à ceux qui vont encore s'ajouter au peuple de Dieu que le Seigneur appellera encore. Je suis heureux et reconnaissant de ce que Dieu travaille, bien les frères et sœurs, et qu'il a une œuvre et il a un outil qu'il utilise qui peut voyager. On peut rester à la maison assis et puis critiquer. Et puis laisser les autres. Mais quand on critique et on est contre quelqu'un et on reste à la maison, ça veut dire que nous-mêmes, on n'est pas de Dieu. Et que c'est seulement de la jalousie. Mais Dieu a eu ses ustensiles et qu'il les a encore dans nos jours. Et nous sommes heureux et reconnaissants de ce que notre frère n'a pas besoin de le faire lui-même. Mais il est envoyé, mandaté, et il a à attendre la conduite de cet esprit, comme on l'a lu dans Actes apôtres, comme Philippe devait attendre que l'Esprit de Dieu vienne. Et alors le Saint-Esprit a conduit toutes choses. La même chose encore aujourd'hui, que ce soit Étienne, Philippe. Et nous sommes heureux et reconnaissants. Ces hommes ont attendu que l'Esprit les envoie. On ne peut pas aller comme ça où on veut. Mais seulement celui qui a reçu un mandat, comme dans Actes apôtres 13. Philippe ne pouvait pas dire, maintenant nous allons aller à André, etc. Le Seigneur m'a déjà parlé. Non, il devait attendre. Est-ce que c'est juste? C'est ainsi que ça doit être. Dieu fait ce qu'il veut dans son royaume. Et il prend aussi ce qu'il veut pour le faire. Et les autres peuvent se mettre en colère et être en compte sans aucune importance. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il veut. Bien sûr que notre frère dit que les gens puissent se sentir intelligents et dicter à Dieu ce qu'il doit faire. Non, on n'a pas besoin de le faire, on ne peut pas le faire. Dieu fait ce qu'il veut et il utilise ce qu'il veut. Et personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et nous sommes reconnaissants pour ce week-end. Et nous avons à faire quelque chose seulement quand Dieu nous demande de le faire. Que Dieu nous bénisse. Et vous bénisse à votre retour. Prions. Père Saint, nous te remercions pour ce week-end, pour tout cet enseignement précieux que nous avons reçu de ta parole. Oh, nous voulons l'accepter. Nous voulons recevoir que cela demeure en nous, que cet enseignement demeure en nous, qu'il reçoive la première place dans nos cœurs. Oh Seigneur, et qu'il produise l'effet pour lequel tu l'as envoyé et exécute toutes tes volontés. Je le prie, je te demande pour moi, je te demande pour nous tous, que tu puisses puissamment te répandre avec ton Saint-Esprit sur nous, Seigneur, dans nos cœurs à tous, que nous ne puissions pas rien faire d'autre que de louer ton Saint-Nom et comme dans le psaume ici, de nous réjouir dans l'allégresse avec des chants de louange. Alléluia. Car tu as fait de grandes choses dans notre jour, réellement. Tu n'as pas parlé en parabole, mais par ta sainte parole. Loué sois-tu et exalté sois-tu, ô Dieu. Nous te le demandons, Seigneur, bénis ton peuple et bénis, Seigneur, en courir au Japon et partout, Seigneur, où tu envoies ton messager à appeler les derniers encore à sortir. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as toujours eu un messager, un envoyé, et tu l'as encore, tant que cela t'est agréable. Nous t'adorons, et ton nom à toi seul l'honneur, dans le Saint-Nom de Jésus. Alléluia. Père Céleste, moi aussi je voudrais de tout mon cœur te remercier pour le privilège que tu laisses rassembler ton peuple pour un objectif bien précis et que tu accorderas ta grâce à ce que ta croix au Seigneur pour toujours demeure debout et que tous les rachetés puissent se redresser par cette croix. Tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui puissent trouver du repos et de la paix pour leur âme et se décharger de leur fardeau et repartir en tant que rachetés, délivrés, affranchis, en tant que consacrés à Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Je te remercie de ce que tu as fait l'alliance avec nous et que dans cette alliance faite, nous avons accepté cette alliance faite avec nous. Oh, nous sommes là, Seigneur, nous te remercions. Ton esprit et ta parole, tout agit dans et parmi ton peuple pour que ton nom soit honoré, glorifié et que ta parole soit confirmée et que tes promesses s'accomplissent. Et je te remercie déjà aujourd'hui de ce que nous n'avons pas besoin de crier comme les prêtres de Baal, mais nous parlerons avec toi dans la douceur et tu répondras comme des disciples. Alléluia. Loué et exalté soit ton nom. Que ton peuple, que tu t'es acquis, te soit consacré dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.